Bande dessinée en fugue, Fabrice Henriot et Thierry Saint-Saulieu.
Bonjour Thierry.
Bonjour Fabrice.
Très heureux de vous retrouver. Vous sortez d'un concert des Golden Gate Quartet, ce qui explique que votre voix soit légèrement influencée par la leur, surtout au niveau grave. Allez, un petit coup de vent est passé par là aussi, on va dire les choses ainsi. Mais ça ne vous empêche pas d'être des nôtres aujourd'hui. Et merci donc de l'être pour partager une bande dessinée qui a pour titre L'illusion magnifique. Et vous ne vouliez pas poser la question, mais on n'aura pas la réponse de toute façon. On ne sait pas précisément à quoi fait allusion ce titre. Par contre, ce qui est certain, c'est que cette bande dessinée, elle nous a vraiment intéressés. C'est une bonne surprise et c'est le premier tome de cette fameuse illusion qui va nous faire découvrir un monde très proche de la bande dessinée en nous transportant à New York en 1938, à une époque compliquée. Enfin, il n'y a pas que 38, il y a tout ce qui tourne autour, les années autour. Et c'est une bande dessinée proposée par Alessandro Tota chez Gallimard, dans la collection bande dessinée donc de Gallimard. Tota, qu'on avait déjà eu l'occasion de croiser il y a quelques années pour Terre d'accueil, c'était chez Sarbacane, si je ne me trompe, et puis plus récemment avec Un été. Ici, il nous emmène donc de l'autre côté de l'Atlantique pour y découvrir la naissance de quelque chose que les amateurs de bande dessinée peuvent aussi lire.
Les comics. Les comics, la BD populaire à l'américaine, un état des lieux de la création dans ces années-là, un état des lieux de la société américaine. On parle de comics, mais ce n'est pas dans le style comics. C'est dans le style vraiment BD indépendante. Le personnage principal, cette jeune femme pleine d'énergie, d'imagination, prend sa valise, qui se la fait voler d'ailleurs dès qu'elle arrive à New York, qui part de son Kansas natal, qui quitte sa famille dans la misère, qui va essayer de réaliser ses rêves. Elle a choisi un chemin ô combien escarpé. Femme scénariste dans ce milieu machiste où les scénaristes de comics sont au mieux à peine considérés, au pire franchement méprisés. C'est un livre qui est révélateur, qui est charmeur, drôle, qui use d'un style graphique, je dirais inattendu, qui utilise certains codes des comics, mais y compris des codes techniques dans les premières planches, même s'il n'est pas nécessaire d'avoir l'ABC du comics pour les apprécier. C'est une histoire qui sera un diptyque, et c'est un album qui est tout à fait passionnant, vous avez raison de le dire.
Il y a déjà eu des ouvrages de bande dessinée, voire des comics, effectivement, autour d'auteurs de comics. Mais il n'y avait pas encore eu véritablement de livre qui nous parlait de la manière à laquelle les comics étaient apparus. Et c'est le cas ici.
Oui, c'est vrai qu'assez récemment, on en a parlé, on l'a au moins évoqué. On a parlé de ces fondateurs, des super-héros, des personnages iconiques du comics, qui étaient souvent des immigrés, qui amenaient leur culture, leur background dans leur métier, dans leur citoyenneté américaine. C'est un petit rappel, une piqûre de rappel des origines du comics américain, de la BD populaire, de la BD qui paraissait dans les journaux, des strips, de cette littérature qui s'adressait aux immigrants, parce qu'on est dans une période d'immigration massive aux États-Unis, pas que seulement aux États-Unis, mais aux États-Unis en l'occurrence. Et il s'agit de s'adresser à tous ces gens qui, dans un premier temps, ne parlent pas l'américain, qui ont leur propre presse pour se tenir informés. Et la presse, notamment la presse de Randolph Hearst, va, par ce biais du dessin, du strip, capter cette clientèle. Et il faut fournir, il faut du dessin, il faut du scénario, il faut des choses qui soient accessibles à ce lectorat qui est encore peu au fait de la société, des codes, etc. C'est aussi un tournant dans le sens où on est avant-guerre. On est dans une période d'agitation politique où il faut se placer sur l'échiquier politique quand on vit aux États-Unis. Parce que ce que je n'ai pas dit encore, c'est que cette jeune femme va frôler la misère et tomber dans une situation particulièrement dramatique, mais elle va être sauvée par des amis, et notamment une personne qui va l'introduire dans la presse communiste. Et on va découvrir la force du Parti communiste américain, des idées communistes qui ne se traduisaient pas forcément par des résultats électoraux, parce que je pense que le Parti communiste était au mieux mal considéré.
Très matraqué.
Très mal considéré, allez, osons le mot. Surtout à la période où Staline représente l'horreur absolue. Il faut se souvenir aussi d'ailleurs qu'à la même époque, il y a un parti nazi américain qui est très actif, qui prépare la Deuxième Guerre mondiale, qui aurait pu jouer un rôle dans l'invasion des États-Unis par le nazisme. C'est une période qui mérite d'être mise en lumière parce que c'est une période qui est sombre, douloureuse, qui est très éclairante. Et au milieu de tout ça, notre héroïne et tous ses collègues scénaristes essaient de travailler, de libérer leur imaginaire, de faire carrière. Ils sont extrêmement mal payés. Elle est particulièrement mal considérée. Elle est dans un milieu extrêmement machiste. En plus, c'est une femme, donc elle n'est absolument pas prise au sérieux. Bientôt, tous ces personnages de super-héros, ils vont être mis au service de la propagande. parce qu'ils vont partir en guerre contre les nazis, parce que la Deuxième Guerre mondiale se profile pour les Américains. Enfin, c'est encore un peu tôt pour en parler, mais la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas, est prête à se déclencher au regard de la période qui était évoquée.
Alors, si les auteurs sont particulièrement mal payés, c'est en raison de ce qu'ils dessinent, justement, qui ne leur appartient pas. C'est vrai. Ça appartient aux éditeurs.
Le système américain, et c'est encore le cas aujourd'hui dans une grande mesure, c'est vrai qu'en France, en Europe, on a l'habitude de voir des personnages appartenir à leurs auteurs ou à leur auteur. Aux États-Unis, c'est la propriété de l'éditeur. Et ce qui explique qu'on est, aux États-Unis, le dessinateur d'un personnage. Un dessinateur parmi d'autres. Ce qui explique aussi la culture de ces séries parallèles, de tous ces personnages qui se rencontrent, qui se combattent, qui meurent, qui ressuscitent. Une espèce de mouvement perpétuel dans la vie des icônes que sont ces super-héros. Et c'est l'occasion de rappeler, mais ça avait été évoqué dans une biographie de Joe Shuster, le créateur de Superman. Il y avait un auteur qui tirait son épingle du jeu à l'époque. Je pense qu'il était un peu détesté par ses collègues, c'est Bob Kane.
Certainement.
Bob Kane, le créateur de Batman. Parce que lui, effectivement, avait cédé ses droits, comme il n'avait pas le choix, à son éditeur. Mais il lui avait fait valoir qu'il était mineur au moment de la signature du contrat. Donc le contrat n'était pas valable. Donc si vous voulez, on va aller devant les tribunaux et ça va être très compliqué pour vous. Et du coup, l'éditeur a dit « Oh là là, vous voulez combien ?» Et du coup, Bob Kane, c'était le seul qui avait gagné beaucoup d'argent à l'époque avec son personnage.
En plus, c'était un mensonge inventé,
voilà, en plus,
avec son père.
Bob Kane, c'était pas un type très très sympathique.
Ici, on découvre aussi tout le principe créatif, en fait. Et moi, c'est un des aspects qui m'a bien intéressé, le fait que, voilà, c'était pas simple de réaliser ces comic books, et qu'il y avait plein de dessinateurs qui rêvaient d'être des artistes, en fait, et qui étaient obligés de faire ça pour vivre.
Splendeur et misère de cet artisanat. C'était un rêve, s'accomplir par le dessin, par l'imagination, par laisser libre cours à son inventivité, le plaisir de dessiner, enfin tout ce qui se rattache à la création, à ce qui fait que la bande dessinée, au sens large du terme, est quelque chose d'un noble artisanat qui vient se fracasser contre les conditions matérielles, les contingences sociales, le matérialisme absolu des éditeurs, enfin des négriers, on peut le dire. C'est un portrait vraiment étonnant et assez désespérant, il faut bien le dire. C'est Struggle for Life, hein, la vie à l'américaine. Et là, c'était vraiment le cas pour ces malheureux auteurs.
Et c'est ce que vit Roberta Miller, qui est fan de Robert Miller. Et c'est la raison pour laquelle elle s'appelle ainsi dans le récit. Elle est très attachante, mais il faut qu'elle s'accroche aussi.
Oui, heureusement qu'elle a quelques amis qui l'aident et qu'elle a une volonté de faire, parce que c'est très dur. C'est très dur. C'est même décourageant. Mais la trajectoire qui est décrite dans cet album est purement ascendante, donc je suis curieux de voir ce que ça donnera dans le 2, avec l'irruption de la guerre qui va changer la donne.
Et quelques points d'interrogation, des choses qui restent en suspens, évidemment, dans ce premier tome. Un petit mot encore sur le dessin, Thierry, un dessin très accessible, avec un peu de trame au début qui disparaît au fur et à mesure, comme pour faire le lien justement avec les comics, sans, vous le disiez au début, sans être un comics pour autant.
Oui, petit clin d'œil graphique avec quelques aspects techniques du comics, mais c'est un dessin alors je brosse à grands traits en disant ça, c'est un dessin typique du roman graphique, justement. Rappelons que le roman graphique est né aux États-Unis, graphic novel, par opposition aux comics de super-héros. C'est un dessin qui est très doux, très caricatural et en même temps avec beaucoup de charme, des couleurs très lumineuses, l'irruption dans les rêves de l'héroïne, surtout au début, de ces super-héros qui viennent l'inspirer. C'est une BD que je n'avais pas lue spontanément, c'est une de mes collègues, Gaëlle en l'occurrence, qui m'a dit « Lila, c'est excellent ». Et effectivement, c'est excellent.
Je partage tout à fait cet avis parce que ça ne m'attirait absolument pas, personnellement. Le dessin en particulier, je le trouvais, sympa, mais sans forcément plus. Et en fait, en entrant dans le récit, on se laisse emporter. Je trouve que c'est très bien écrit, c'est très bien traduit parce qu'il s'agit d'une traduction.
L'héroïne est très attachante.
Et voilà, ça fonctionne très bien. Donc, on attend avec impatience le livre 2, puisque là, nous venons de partager avec vous le livre 1 de L'illusion magnifique, New York 1938. Nous ne savons pas exactement où nous serons et quand nous serons dans le deuxième et dernier tome, proposé par Alessandro Tota chez Gallimard, collection bande dessinée, bien sûr, de Gallimard. Merci beaucoup Thierry d'avoir partagé avec nous cette lecture, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour poursuivre dans un registre toujours assez littéraire, oui, on va dire ça.